France Inter.
France Inter. Le 18-20. Claire Servageant.
Au téléphone sonne ce soir, question sur les troubles bipolaires à la veille de la journée mondiale qui leur est consacrée. Le 30 mars n'a pas été choisi au hasard. Il s'agit de la date de naissance de Vincent Van Gogh qui était, semble-t-il, atteint de troubles bipolaires, ce qui ne l'a pas empêché, au contraire, de devenir un génie de la peinture. D'ailleurs, la créativité semble décuplée chez les personnes bipolaires, comme nous allons le voir avec nos invités. Pour commencer, nous allons tenter de définir ces troubles, de voir quelle est leur spécificité, de voir comment ils sont diagnostiqués. De ce point de vue, il y a du nouveau, puisqu'à partir de lundi, un test sanguin sera disponible, une première que l'on doit à un laboratoire français. Un pas important pour les patients qui restent parfois des années en errance, sans savoir ce dont ils souffrent. On évoquera également les traitements médicamenteux, mais pas que. On parlera aussi du rôle de l'entourage, fondamental, mais parfois soumis à rude épreuve. Avec nous, pour répondre à vos questions et réagir à vos témoignages, deux invités dans ce studio. Bonsoir, professeur Chantal Henry.
Bonsoir.
Professeur de psychiatrie à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, vous êtes spécialiste des troubles bipolaires. Maxime Perez-Zitvogel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes cofondateur de la Maison Perchée. C'est une association fondée par de jeunes adultes atteints de troubles bipolaires. Merci à tous les deux d'être là ce soir et d'avance, merci à vous tous pour vos appels.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Pour commencer, nous partons dans les Vosges. Bonsoir Eras.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir appelé le standard. Vous souhaitiez nous parler de votre expérience ?
Oui, alors moi je suis bipolaire de type 2, donc ce qu'on appelle cyclothymique. Donc c'est des bipolaires à cycle très rapide, avec des gros changements d'humeur, ce qu'on appelait, je crois, un moment lunatique, si je ne me trompe pas. Et j'ai été diagnostiqué il y a déjà de nombreuses années. Je suis passé de CMP en CMP et j'ai mis très longtemps avant de me faire soigner. Il m'a fallu une grosse prise de conscience et il a fallu que je me rende compte que ça devenait dangereux pour moi et mon entourage. Et je voulais appeler ce soir en particulier, c'était pour enjoindre les gens qui se suspectent de souffrir de troubles bipolaires à vraiment se faire diagnostiquer, à se faire soigner le cas échéant.
Est-ce que vous pourriez nous préciser cette errance dont vous avez parlé, les CMP, c'est-à-dire ?
Alors moi, ça a commencé avec un burn-out qui m'a d'abord dirigé vers l'hôpital Sainte-Anne dans un premier temps. Eux, là-bas, m'ont renvoyé vers un CMP.
C'est-à-dire ?
Alors, c'est un centre médico-psychiatrique. Ça permet d'avoir des consultations gratuites et de rencontrer des médecins. Parce que la psychiatrie étant un peu le parent pauvre de la médecine en France, les soins sont pas forcément toujours très bien remboursés.
Et aujourd'hui, Eras ?
Alors aujourd'hui, je suis un peu sorti de ce circuit-là. Aujourd'hui, je suis sous traitement et ça va, ça change la vie. Ça change la vie. Le traitement le plus courant, c'est le lithium, associé dans mon cas à la dépakine, qui a une réputation un peu sulfureuse, mais en vrai, je vous jure, ça va.
Donc le plus important, c'était effectivement de poser un diagnostic pour pouvoir suivre un traitement. Merci Eras pour ce témoignage, Chantal Henry. Vous avez écouté avec attention ce qu'il vient de nous dire Eras. C'est un parcours, j'imagine, qu'on retrouve régulièrement.
Oui, bien sûr, c'est ce délai qu'il faut entre les premiers symptômes, les premiers signes de la maladie, un diagnostic posé, et donc cette errance diagnostique. Peut-être une petite précision quand il parle de troubles bipolaires de type 2 pour les auditeurs qui ne seraient pas très familiers.
Oui, on va peut-être commencer par définir ce dont on parle ce soir. C'est l'occasion de le faire maintenant.
Troubles bipolaires de type 2 dont souffre cette personne, en fait, c'est des épisodes dépressifs caractérisés qui entraînent un handicap, hein, puisque les gens ne sont plus capables de fonctionner pendant ces épisodes, avec une tristesse, un ralentissement, une perte de motivation, des troubles du sommeil, tout ce cortège de symptômes. Et puis, des phases d'exaltation qui ont les mêmes symptômes que les phases d'exaltation dites maniaques, mais les épisodes maniaques sont sévères et conduisent en général à l'hôpital, peuvent être associés à des symptômes psychotiques, alors que les épisodes d'hypomanie, qui caractérisent les troubles bipolaires de type 2, ce sont les mêmes symptômes, mais d'intensité moindre, en fait. Et c'est apparemment ce dont souffre, en fait, Harald, c'est ça ?
Eras, qui nous a appelé des Vosges. On va voir comme les signes qui doivent alerter les personnes qui supposent être atteintes de troubles bipolaires. Mais je voudrais d'abord que Maxime Perez-Dietvogel réagisse à ce témoignage, surtout que vous avez une association, vous-même vous avez été diagnostiqué. C'est le genre de témoignage que vous entendez régulièrement ?
Effectivement, c'est le genre de témoignage qu'on peut entendre souvent à la Maison Perchée, qui, je précise, est une association dédiée à toutes les personnes ayant un trouble psychique et pas seulement la bipolarité, à tous les jeunes. Moi, pour ma part, je sais que mettre un mot sur mes mots a été la première étape, donc ce diagnostic, afin de pouvoir ensuite avancer, même si, voilà, après, le plus dur dans tout ça, au tout début, c'est forcément d'accepter la maladie et d'envisager ensuite toutes les possibilités de pouvoir vivre, non pas juste survivre seul dans son coin. Mais c'est souvent le plus dur et le plus compliqué à vivre. C'est vraiment cette pause de diagnostic, parce que on va apprendre à ce moment-là qu'on va avoir un traitement à vie, qu'on peut pas en guérir, qu'on peut juste se rétablir, qu'on va avoir des effets secondaires. Que moi, dans mon cas, typiquement,
vous aviez quel âge quand
moi, j'avais commencé 20 ans. J'avais 20 ans et... À la suite de mon diagnostic, j'ai pris plus ou moins 25 kilos suite à la prise des traitements. Donc c'est clairement une double peine. Donc déjà, on a honte, on ne comprend pas ce qui nous arrive.
Est-ce qu'on peut juste remettre dans le contexte, parce que vous avez raconté ce qui vous est arrivé. Vous étiez à la fois étudiant, entrepreneur, vous étiez en Chine.
Exactement. Donc ouais, j'étais à la fois entrepreneur et étudiant en Asie, en Chine. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que sans m'en rendre compte, j'ai eu tous les symptômes de la bipolarité. Et que malheureusement, bien qu'ayant suivi un parcours étudiant plutôt, on va dire bien et classique, j'aurais pu entendre parler de ce genre de pathologie, mais malheureusement, en fait, on m'avait jamais parlé de la bipolarité avant, ce qui est c'est pour ça d'ailleurs que j'encourage tout le monde de se renseigner.
D'où l'intérêt des journées comme celle-là.
Voilà, c'est parfait d'être là aujourd'hui. C'est très important parce qu'en fait, ça commence par là. Et en fait, clairement, moi, si justement on m'en avait parlé, en fait, j'aurais pas passé 6 mois en phase de manie sans m'en rendre compte à l'autre bout du monde et à la
avec,
suite.
Je crois, des colocataires qui ont alerté votre famille ici en France.
J'ai eu la chance d'être bien entouré à ce moment-là, mais en fait, c'est pas le cas de tout le monde. Donc, encore une fois, c'est pour ça que je pense que c'est primordial.
Ils se sont dit quoi, vos colocataires? Ils se sont dit, il y a un truc qui cloche, c'est ça?
Oui, ils se sont clairement dit, là, Maxime, ça va pas du tout. Il faut prévenir ses parents et la suite de quoi? Mais mes parents sont venus me chercher et j'ai eu un rapatriement sanitaire depuis la Chine, ce qui est hyper violent parce que une fois qu'on rentre en France, moi j'ai été attaché pendant plusieurs jours
en psychiatrie
et quand on connaît pas du tout ce monde parallèle de la psychiatrie, en fait c'est hyper violent et je souhaite pas à mon pire ennemi de vivre ça. C'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui, pour témoigner et pour montrer à tout le monde l'importance tout le monde en parle, parce qu'en fait, et c'est pas parce qu'on n'est pas concerné qu'on le sera pas un jour et qu'on pourra pas aussi aider comme moi mes colocataires, ses amis, ses collègues, ses proches.
Remercie de témoigner, parce qu'effectivement c'est important. Professeur Chantal Henry, là ce sont donc les colocataires de Maxime Perez-Dietvogel qui ont alerté. Ça arrive fréquemment que ce soit l'entourage qui se dise il y a quelque chose qui va pas?
Bien sûr, sur les premiers symptômes, ça devait être une manie, je suppose. En fait, un état d'exaltation, c'est la famille, en fait. Souvent, les proches qui vont se rendre compte qu'il y a un changement très important de comportement, alors que la personne, dans ces cas-là, se trouve en super forme. Il y a une énergie décuplée, les gens ne dorment pas, pensent vite. Ça peut être assorti aussi de symptômes psychotiques avec des idées de grandeur. Donc, les gens ne vont pas chercher les soins lors de ces phases-là, parce qu'ils ne se perçoivent absolument pas comme malades.
C'est le fait qu'il y ait des humeurs changeantes qui doit alerter?
Alors, c'est un changement drastique de comportement à ce moment-là. Hein. C'est-à-dire que lors des phases maniaques, la personne est souvent très agitée, ne dort pas, peut se lancer dans des projets parfois irréalistes, peut tenir des propos parfois délirants, puisque on peut avoir des idées mégalomaniaques. Et puis aussi, les relations interpersonnelles peuvent être un peu bousculées parce qu'on peut se montrer très irritable.
Et ça peut arriver à tout âge, ou c'est plutôt quand on est adolescent, jeune adulte?
Le début des troubles bipolaires, c'est l'adolescence et l'adulte jeune en général. principalement.
Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un de plus âgé peut ne pas être affecté, ça peut arriver.
On peut avoir des débuts beaucoup plus tardifs, effectivement, même dans le grand âge.
Même dans le grand âge, d'accord, ouais. Bah c'est bon à savoir, c'est important. On a Romain qui nous appelle de Toulouse, je crois. Bonsoir Romain.
Oui, bonsoir.
Merci de nous avoir appelé.
Eh ben, merci de prendre mon appel.
Mais vous vouliez témoigner vous aussi?
Oui, tout à fait. Donc moi, j'ai été diagnostiqué bipolaire à l'âge de 21 ans. Depuis, j'ai 38 ans aujourd'hui. Depuis, le trouble est relativement bien stabilisé avec une prise de traitement et puis un suivi à la fois psychothérapeutique et psychologique. Moi, je tenais simplement à sensibiliser les auditeurs au fait que l'entourage puisse être aussi touché avec ce trouble, avec cette maladie, que ce soit les enfants, les compagnes, compagnons, les parents, frères et sœurs. Voilà, ce sont des personnes qui indirectement subissent elles aussi les effets de cette maladie. Au-delà de ce que nous on peut ressentir et subir en tant que personne malade, il y a aussi toutes ces personnes qui gravitent autour de nous et malheureusement qui peuvent aussi souffrir de la situation.
Et alors qu'est-ce qu'il faut leur dire à ces personnes de l'entourage ?
Alors moi j'ai particulièrement apprécié le témoignage de votre intervenant qui expliquait effectivement que dans tout le processus, ce qui compte avant tout, c'est l'acceptation du trouble et l'acceptation du traitement, qu'il soit médicamenteux ou psychothérapique, qui aide effectivement à mieux se prendre en main. Et ensuite, il faut réussir à trouver les mots justes pour rassurer ses proches et se dire que le temps va jouer avec nous, les efforts vont être là, que ce soit accompagné par des médecins lors des séjours en clinique, que ce soit par la prise de médicaments, que ce soit par les rendez-vous réguliers avec les professionnels de santé. Voilà, mais c'est un effort continu et difficile, mais qui est difficile pour soi-même, mais aussi, comme je le disais tout à l'heure, pour les personnes qui peuvent vivre avec nous et voilà, pour l'ensemble de notre entourage.
Pour l'entourage. Et c'est important, j'imagine, de ne pas rester seul et d'être accompagné, Maxime Pérez-Vogel.
Effectivement. Non, mais moi, pour ma part, j'ai eu beaucoup de chance parce que ma famille m'a soutenu dès le premier jour et... Bien que c'était très compliqué, notamment j'ai une pensée pour mon petit frère et ma petite sœur qui étaient très jeunes à l'époque où j'ai eu mon diagnostic. Ça a été très très violent pour eux et notamment j'ai en souvenir une phrase de ma petite sœur qui m'a dit « Il est où mon grand frère, je le reconnais plus ?» Donc je vous avoue que ça c'était assez dur à encaisser. Mais c'est aussi ça qui m'a permis d'avoir une forme de déclic pour avancer aussi par la suite. Mais évidemment c'est primordial, mais au-delà de ça on n'a pas tous la chance d'être entouré, d'avoir des proches. C'est notamment le cas nous... à la Maison Perchée, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a aussi choisi de permettre à n'importe qui de pouvoir venir tous les matins, c'est ouvert au grand public et tous les samedis pour que justement chacun puisse en fait se sentir entouré et pas seul, parce que évidemment comme on a pour habitude de dire à la Maison Perchée, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, et en fait c'est pas parce qu'on n'a pas de famille qu'on n'a pas le droit non plus de se la créer d'une autre manière, et je pense que c'est primordial que de ne pas rester seul.
Et c'est une forme de solidarité que vous offrez à travers cette association. Professeur Chantal Henry, sur la place de l'entourage dans ces troubles, dans cette maladie, comment ça se passe quand vous recevez les patients, vous recevez aussi l'entourage ?
Bien sûr, c'est absolument essentiel de recevoir l'entourage aussi et d'expliquer à l'entourage en fait ce qu'est cette pathologie pour qu'il n'ait pas des attitudes contre-productives. Parfois, en voulant bien faire, en fait, on peut avoir face à un patient déprimé, très souvent, l'entourage va sursolliciter en fait la personne pour lui proposer plein de choses hédoniques, pour lui faire plaisir et finalement, ça ne va le renvoyer qu'à son incapacité à éprouver du plaisir. Donc voilà, c'est extrêmement important d'expliquer les phases maniaques, les phases dépressives. Mais ce que je voulais souligner, c'est que si, à un moment donné, votre entourage vous a perdu un petit peu de vue quand vous étiez en phase maniaque, ce qu'il faut dire, c'est que lorsqu'on est traité, un patient bipolaire peut être stable pendant des années et se retrouver parfaitement. Et c'est ce que vous faites, créer des choses, créer une association. Et donc, voilà, l'espoir, il est là.
Quand vous dites stable, ça veut dire ne plus avoir du tout ces phases qui alternent ?
Oui, parce qu'on parle des phases maniaques et des phases dépressives, mais il y a des phases dites intercritiques, et ces phases dites intercritiques, on peut avoir pendant des années ne plus avoir de phase ni dépressive ni maniaque. Ce qui fait que très souvent, les patients disent « je ne suis plus malade, en fait, puisque je n'ai plus d'épisode », et ce qui va les inciter parfois à vouloir arrêter les traitements. Malheureusement, la vulnérabilité persiste, et c'est pour ça que ce sont des traitements au long cours, en fait, que ce soit pharmacologique que psychothérapeutique, c'est-à-dire avec un suivi au long cours.
Alors c'est très important évidemment de suivre ces traitements, mais je voudrais qu'on dise un mot avant tout du diagnostic, parce que c'est peut-être quand même la première chose, et dire un petit mot de ce qui a été annoncé la semaine dernière, ce test sanguin, c'est vraiment quelque chose de nouveau, révolutionnaire, important ?
Alors c'est nouveau, pour l'instant, un diagnostic psychiatrique, en fait, est uniquement basé sur un entretien clinique, en fait. Et ça reste, le diagnostic reste un entretien basé sur un entretien clinique. À l'heure actuelle, effectivement, il y a ce test qui, avec une prise de sang, quand un patient est déprimé, peut faire la distinction avec une très bonne sensibilité et spécificité entre une dépression unipolaire et une dépression bipolaire. Ce qui est important puisque très souvent, 60% des patients vont commencer par des récurrences dépressives. C'est-à-dire ils vont faire plusieurs épisodes dépressifs qui vont être étiquetés unipolaires et on va donner un traitement qui n'est pas particulièrement adapté. Donc, ce test est une aide au diagnostic pour pouvoir repérer et moi, ce que je conçois, c'est que s'il est prescrit, par exemple, en médecine générale, un médecin généraliste qui va avoir souvent du mal à repérer une bipolarité chez un patient, si ce test lui permet de suspecter la bipolarité, il pourra adresser à un psychiatre avec des arguments pour le patient en disant, voilà, je suspecte une bipolarité du fait de ce test, et le diagnostic restera un diagnostic clinique, bien sûr. Donc c'est une aide au diagnostic, et ça pourrait participer à avoir un diagnostic plus précoce.
Pas inutile quand on connaît l'état de la psychiatrie et le manque de...
Exactement, puisque ça permettrait effectivement d'aller vers un spécialiste quand on en a besoin, en fait, puisque c'est un avis de spécialiste.
Le téléphone sonne. Voilà, je vous rappelle qu'on parle ce soir des troubles bipolaires, que nous sommes avec Maxime Pérezet de Vogel, qui est cofondateur de la Maison Perchée, une association fondée par de jeunes adultes atteints de troubles bipolaires, et qu'on est également avec le professeur Chantal Henry, professeur de psychiatrie à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. On va repartir au standard. Retrouver cette fois Sophie, qui nous appelle de la région parisienne, je crois bien, Boulogne-Billancourt, c'est ça ? Bonsoir Sophie.
Bonsoir, merci de prendre mon appel. Donc moi, mon histoire, c'est que j'ai 51 ans aujourd'hui et j'ai eu des problématiques d'humeur depuis très jeune. À un moment, j'ai fait une très grosse dépression, donc j'ai commencé à avoir un psychiatre. Je l'ai vu pendant 15 ans et il m'a traité pour une dépression. Et j'ai changé de psychiatre. Il a détecté une bipolarité, donc plutôt de la cyclothymie. Donc peut-être moins spectaculaire que ce que les gens précédents ont indiqué dans leur témoignage. Il m'a dit qu'avec un médicament qui est un antiépileptique, si ça fonctionne, ça confirme le diagnostic, et c'est le cas. Donc maintenant, ça va beaucoup mieux avec le traitement adapté. Il m'a également dit que souvent, ces troubles étaient accompagnés de troubles de l'attention. Et ces troubles de l'attention, on arrive très bien à les compenser quand on est plus jeune, et plus on vieillit, moins on y arrive. Et tout ça a fait que je me suis retrouvée avec des difficultés sociales, beaucoup de difficultés dans mon travail, avec parfois de belles crises de nerfs au travail aussi. Et voilà, donc tout commençait à être vraiment difficile. Et voilà, aujourd'hui, je suis diagnostiquée, j'ai un traitement, tout va bien. Mais ça a mis vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps.
Merci beaucoup, Sophie, pour ce témoignage. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, hein, professeur Chantal Henry. Le fait de pouvoir poser le diagnostic, ça change tout.
Oui, parce que pendant cette durée, en fait, entre le début des épisodes et le diagnostic posé, c'est pas sans conséquence pour le patient, pour l'entourage. Le patient, en fait, va au moment où il est en train de construire sa vie, de faire des études, de se mettre en couple, ça va avoir un impact sur à peu près tous les domaines. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est une pathologie qui tue quand elle n'est pas diagnostiquée et traitée.
C'est-à-dire que les patients sont dans la phase dépressive, c'est ça ?
Oui, les phases dépressives sont souvent extrêmement sévères, que ce soit dans le trouble bipolaire de type 1 ou de type 2. Il n'y a pas de différence dans la sévérité des symptômes dépressifs et donc, bien sûr, le risque et le risque suicidaire.
Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur les conséquences de cette pathologie sur la vie sociale. Sophie de Boulogne-Billancourt, il faisait allusion. Il y a Maxime Pérez-Sidvogel, je crois, beaucoup de conséquences par rapport à la vie professionnelle, par rapport à la vie sociale, par rapport à la vie familiale. Est-ce que vous pourriez nous parler de ça et des témoignages notamment que vous entendez dans votre association ?
Oui, il est évident que, enfin nous par exemple à la Maison Perchée, la grande majorité des adhérents sont là pour rompre l'isolement. Parce que le plus souvent, par exemple suite à une phase de manie, moi le premier en fait, quand j'ai fait ma première phase de manie, j'avais tellement honte et j'ai pas tout de suite accepté la maladie que j'ai passé quand même 17 mois dans ma chambre et j'ai fait une tentative de suicide. Pour rappel, il y a 20% de suicides chez les bipolaires, quand on sait qu'il y a 1 à 2 millions de personnes en France qui sont concernées, ça fait beaucoup de monde qu'on pourrait potentiellement vraiment aider si seulement la société joue un peu plus le jeu. Mais au-delà de ça, moi, ce que je constate, c'est que, enfin, des exemples assez dingues, c'est que j'ai un membre de la Maison Perchée qui m'expliquait qu'il avait dû être hospitalisé et qu'il avait dû trouver une maladie similaire qui pourrait potentiellement faire qu'on soit hospitalisé un mois pour en fait le cacher à son employeur. On en est là encore aujourd'hui en 2024. Et donc, je pense qu'il y a encore, voilà, donc tout un panel de choses qui font que beaucoup de gens hésitent à l'idée de parler de leur RQTH à leur employeur, à parler publiquement de leurs troubles, parce que voilà, la société n'est pas encore totalement prête à ça. Et de ce fait, forcément, ça crée, moi le premier, je m'imagine même pas devoir cacher ma bipolarité. Enfin, si en fait, à tous les niveaux de la société, de mon boulot, de ma vie de tous les jours, je devais cacher mon handicap. En fait, tu peux pas avancer si vraiment tu, in fine, t'es pas libéré et t'es pas ok avec ça. Enfin, je pense que c'est un vrai sujet et ça, pour ça, c'est un vrai travail collectif à faire pour que, parce que c'est pas normal qu'on ait à cacher sa maladie.
Docteur Henri, qu'est-ce que vous dites aux patients par rapport à ça? Est-ce qu'il faut le cacher à son employeur? Est-ce qu'il faut jouer carte sur table? C'est pas évident.
Ça reste extrêmement difficile, effectivement, dans le cadre professionnel. En fait, bien évidemment que dans son entourage, c'est important d'en parler. Et ensuite, ça va être un peu au cas par cas. Effectivement, et très souvent, j'ai encore eu cette semaine deux patients hospitalisés qui ne voulaient pas qu'il y ait le tampon, en fait, pour l'arrêt de travail de la psychiatrie, et donc une demande auprès du médecin généraliste pour faire l'arrêt de travail.
Mais ça, c'est toutes les maladies psychiatriques, j'imagine, c'est le même réflexe par rapport à un employeur ou à...
Parce que c'est trop stigmatisant encore, et donc d'où l'utilité de ce type d'émission, mais surtout que des personnes atteintes de troubles comme Maxime et comme les auditeurs prennent la parole pour expliquer, et puis pour expliquer qu'on peut faire plein de choses en fait quand on est traité et qu'on peut aller bien.
Absolument. Florian nous appelle de Bellegarde. Bonsoir à vous, Florian.
Bonsoir.
Merci de nous avoir appelés. Vous vouliez témoigner, vous aussi?
Oui, mais en tant que... Alors, c'est mon père qui est bipolaire, lui, depuis des années. En tant que fils, pour dire que c'est pas toujours facile de vivre la maladie, même si j'habite loin de mon père aujourd'hui. J'en subis les conséquences, ma famille en subit les conséquences, et tous ses proches en subissent les conséquences, notamment lorsqu'il est dans sa phase haute, maniaque, et avant même de passer en phase dépressive, il y a souvent une phase, je crois pas que vous en ayez parlé encore, une phase où il est dans une phase de paranoïa, où là, il s'en prend à tout le monde, toute sa famille, et par exemple, il menace d'appeler nos employeurs pour nous discréditer, ou des proches pour nous discréditer. Voilà, il fait des grandes menaces, des menaces de se suicider, ça peut arriver, ça aussi. Il est dans des menaces, à tel point que moi, par exemple, j'ai dû le bannir de mon mariage parce qu'il menaçait de tout casser à mon mariage. Donc on a ces phases-là qui sont difficiles à gérer, qu'on ne sait pas gérer, mais dont on pâtit tous les ans. Ça arrive une fois par an, de façon saisonnière, et on en est attristé. On ne sait jamais trop s'il faut être totalement honnête avec lui ou s'il faut lui cacher les choses, mais de peur que voilà, il s'en prenne à nous. Mais voilà, alors lui, il reconnaît pas qu'il est malade, et pourtant, il a fondé une association qui fait référence en France pour aider les bipolaires, qui est l'association Argos. Et il a écrit un livre aussi qui fait référence dans le domaine des hauts et des bas qui troublent votre vie.
Mais ça veut dire, s'il nie la maladie, ça veut dire qu'il n'est pas du tout traité ?
Eh bien, en fait, il a été traité pendant longtemps, il a reconnu la maladie, il a aidé beaucoup lui-même de bipolaire en France, mais depuis quelques années, il ne reconnaît plus la maladie, donc il ne prend pas correctement son traitement. Et aussi parce qu'un psychiatre lui a dit il y a quelques années de ça qu'on avait dû se tromper sur son diagnostic et qu'il était sûrement autiste Asperger. Mais nous, connaissant et puis les livres qu'il a écrits, ce qu'il a fait, on voit bien que voilà, il est bipolaire, il en a tous les symptômes. Et alors, j'ai entendu dire que oui, il pouvait y avoir des liens entre autisme et bipolarité, mais bon, moi, pour moi, il est vraiment bipolaire. Et voilà, du coup, il se soigne pas ou peu.
Eh ben,
et en empathie.
Effectivement, ça ne doit pas être simple tous les jours. Merci beaucoup, Florian, pour ce témoignage que je vais soumettre à Dr Chantal Henry.
Bien sûr, quand les fluctuations de l'humeur surviennent comme ça, de manière très répétitive, une fois par an, c'est énorme. Effectivement, peut-être avec des éléments de mixité où il y a à la fois de l'agitation et puis des éléments très dysphoriques, très agressifs, tristes, etc. Puisqu'à la fois, il y a des menaces de suicide, des menaces d'agressivité. C'est une pathologie qui n'est pas stabilisée, effectivement, qui a des conséquences, comme l'on disait, sur l'entourage et pour le patient.
Il y a des hospitalisations sous la contrainte, parfois dans...
Bien sûr, oui. Bien sûr, et c'est souvent à la demande de la famille pour protéger la personne.
Et c'est ce qui vous est arrivé, Maxime Perazit-Vogel ?
Exactement, c'est ce qui m'est arrivé. Donc j'ai été hospitalisé sous contrainte dans le cadre des 12 jours. Donc je vous invite à vous renseigner. Il y a d'ailleurs un super documentaire de Monsieur Depardon sur
Absolument.
Ça.
Absolument.
Et l'idée étant que pendant 12 jours, on doit en fait prendre un avocat, passer devant le juge des libertés, ce qui est hyper violent quand on ne sait pas pourquoi on est là. Moi, le premier, c'était mon cas. Et mais in fine, c'est pour notre bien, dans le sens où, moi, dans mon cas, ça m'a clairement sauvé la vie à ce moment-là. Et même si c'était très très dur et très violent, et j'en ai beaucoup voulu à mes parents au début. Et pour revenir sur le témoignage, je pense aussi que c'est important. Enfin, je connais pas votre père, monsieur, mais je pense aussi que parfois, c'est aussi important de se rendre compte que le traitement, l'acceptation. Et le traitement ne fait pas tout, en fait, du tout. En fait, c'est qu'une petite bille, et qu'en fait, il n'y a pas de recette magique, et que chacun doit la trouver, et que ça prend du temps. Moi, maintenant, ça va faire demain, ça fera 7 ans, jour pour jour, que je suis rétabli. Mais voilà, j'aime bien me comparer à un funambule, parce qu'en fait, tous les jours, c'est un travail de tous les jours, il n'y a pas de secret, et malheureusement, faut justement faire une forme d'introspection énorme que, in fine, tout le monde devrait faire, pour en fait se connaître et apprendre à avancer avec son trouble, parce que c'est quand même possible de vivre. Mais par rapport à ce qui est donc des enfants d'eux, ce qui est un sujet qui revient aussi parfois dans notre association, on a d'ailleurs un épisode de podcast, notre podcast qui s'appelle La Perche, que je vous invite à écouter sur le sujet, parce que on en parle trop peu et c'est important de pouvoir libérer la parole sur aussi ces sujets-là d'une manière, on va dire, avec des personnes concernées.
Avec les témoignages directs. Voilà. Sabrina nous appelle de Cherbourg. Bonsoir Sabrina.
Bonsoir.
Bienvenue.
Merci beaucoup. Alors moi j'ai une question, mais plus j'entends parler, plus j'en ai. Alors je vais aller très vite.
On commence par la première. Allez.
Et ben c'est l'origine de la maladie. Est-ce qu'on a une idée, vu qu'il y a un test sanguin, est-ce que c'est génétique ou autre chose? La deuxième, c'est on a deux cerveaux gauche-droit. Est-ce qu'on n'en a pas un troisième, ce qui est traité dans la dépression et le cerveau de la synthèse? Et vous parliez au début de l'émission de la créativité. Donc voilà, j'ai tout dit.
Eh ben merci. On va les prendre dans l'ordre sur l'origine de la maladie, professeur Chantal Henry.
Alors, il y a une part génétique, effectivement, on ne connaît pas de gènes, c'est polygénétique en fait. Il va y avoir plusieurs gènes qui vont concourir au déterminisme de cette pathologie. C'est de l'ordre, cette hérédité est de l'ordre de 60%. Et il y a des facteurs aussi environnementaux qui peuvent être des facteurs environnementaux, des facteurs traumatiques dans l'enfance par exemple. La prise de toxiques ne va pas aider, peut entraîner des décompensations de la maladie. Voilà.
Alors là, vous avez répondu aussi à une question qui nous arrive par mail, c'est Constance qui nous dit quels sont les risques d'hérédité dans une famille avec plusieurs troubles bipolaires diagnostiqués tardivement, avec quel traitement préventif pour les générations futures? Elle s'inquiète visiblement, Constance.
Alors,
qu'est-ce qu'on peut lui dire?
On ne parle pas de traitement préventif pharmacologique en tout cas, mais on peut surveiller si on a des fluctuations de l'humeur soi-même, et puis surtout, c'est si à un moment donné on fait un épisode dépressif, il est extrêmement important de signifier au médecin qui a des antécédents de bipolarité parce que le traitement ne sera pas le même. Et il faut éviter à ce moment-là un antidépresseur qui, prescrit seul, pourrait induire une phase d'exaltation maniaque.
Maxime Pérezine, vous voulez rajouter quelque chose ?
Oui, par rapport à ça, je pense que, enfin, encore une fois, moi le premier, je parle de mon vécu, je ne savais pas qu'il y avait des personnes concernées dans ma famille. Et je pense que c'est une absolue nécessité, en fait, que, voilà, que la parole se libère au sein même des familles, tout simplement, pour en fait permettre justement de gagner du temps sur le diagnostic, notamment. Parce que très souvent, en fait, il suffit d'en parler autour de soi pour se rendre compte et gagner du temps.
Alors, on va essayer de répondre aux autres questions de Sabrina. J'ai pas tout compris sur le cerveau. Vous me suivez là, droite, gauche, autre. Bon, enfin bref.
Non,
sur la créativité, parce que ça, c'est une question intéressante.
Oui, juste sur le cerveau. On sait qu'il y a certains circuits, notamment des circuits en fait qui impliquent le système émotionnel, qui ont certaines modifications, qui sont peut-être moins bien régulées, d'où ces oscillations de l'humeur. Alors, on lit souvent créativité et troubles mentaux. Moi, ce que je dirais, c'est que les gens pourront exprimer leur créativité quand ils sont traités et stables. Je peux citer Garouste qui dit que quand il crée, en fait, il ne cache pas sa bipolarité et que lorsqu'il crée dans les épisodes maniaques, il n'est pas très content de ce qu'il crée généralement. Donc, il n'arrive à créer que quand il est stabilisé. Et en phase dépressive, en général, on n'est pas très productif.
Vous vouliez rajouter quelque chose?
Oui, non, mais je rejoins le professeur, mais aussi, moi, je sais que quand j'ai été diagnostiqué, ça m'a aussi, moi, d'une forme rassurée de me rendre compte que plein d'artistes, c'est bête, mais au tout début, quand je me suis rendu compte que des Van Gogh, que des Virginia Woolf, que tout un panel de gens étaient aussi concernés, d'une part, ça m'a peut-être rassuré, je pense. Bien que je cherche toujours des Français qui le sont aussi, ça je lance une perche, mais il y en a peu beaucoup en France qui osent en parler, j'ai l'impression encore, c'est aussi très français. Et au-delà de ça, c'est par rapport à la créativité, bah, moi je vous encourage, je vais encore parler de la Maison Perchée, mais venir découvrir à la maison, on a un mur d'exposition qui change tous les deux mois avec des créations faites par la communauté, et d'ailleurs qui va s'exporter là, à partir de la fin du mois d'avril au Palais de Tokyo, on fait un partenariat. Donc c'est quand même assez chouette de pouvoir aussi valoriser et mettre en avant le travail de toutes ces personnes et de toutes ces personnes concernées, mais qui ont aussi parfois du vrai talent, et c'est important de le montrer, et c'est valorisant.
On repart au standard, et on va à Montpellier cette fois-ci. Bonsoir Cécile.
Oui, bonsoir.
Je crois que c'est l'appel d'une mère inquiète.
Oui, absolument. Ben voilà, en fait, ma fille a été hospitalisée mi-janvier, là, pendant une semaine, en psychiatrie, en fait, à Montpellier. Et donc, apparemment, le compte-rendu médical c'était écrit suspicion de bipolarité. Donc, en fait, on est un peu dans le flou. Pour elle, elle est bipolaire. Donc, voilà. Et après, on lui avait parlé de cyclothymie. Alors, est-ce que c'est une forme de bipolarité? Après, j'ai aussi la question des rechutes. Est-ce qu'il y a des rechutes possibles? Parce que dans une vie, ben, on est soumis à plein de stress différents. Voilà, une grossesse par exemple. Enfin, c'est quand même un gros bouleversement. Donc, comment ça se passe?
Ben, on va essayer de vous répondre. Cécile, votre fille, je crois, elle a 21 ans, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait.
Et elle a donc été diagnostiquée.
Voilà. Enfin, en tout cas, c'était écrit suspicion de bipolarité.
Suspicion.
Donc, on ne sait pas trop vraiment. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Enfin, voilà.
On va soumettre la question au professeur Chantal Henry quand vous entendez. Quand vous attendez la maman.
Alors, ce qui me gêne dans ce témoignage, c'est que elle a lu ça sur un compte rendu. Donc, ma question, c'est est-ce que vous avez rencontré les soignants? Est-ce que vous avez parlé de cette pathologie?
Cécile, vous êtes toujours là?
Oui.
Et alors, justement, comment ça s'est passé?
Alors oui, en fait, mon mari, parce que donc mon mari est médecin à l'hôpital aussi à Montpellier, et il a pu discuter avec le psychiatre chef de service qui a vu ma fille. Elle a vu d'autres psychiatres aussi, et a priori, c'est ce qu'il lui a dit, quoi. Il lui a confirmé, quoi.
Donc il y a eu discussion, professeur Chantal.
Oui, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que on peut pas, c'est extrêmement violent de lire un diagnostic sur un compte rendu. C'est-à-dire que c'est l'annonce de la pathologie doit être entourée pour le patient, mais également
pour l'entourage,
bien sûr, doit être accompagné. On doit expliquer la pathologie. Alors souvent sur un épisode aigu, quand les patients sont hospitalisés pour un épisode d'exaltation ou dépressif, toutes les informations ne vont pas être assimilées, mais ça va être un long travail, en fait, d'éducation et pour le patient et pour la famille, et pour leur donner le plus possible de clés pour qu'ils comprennent, et justement pour avoir un rôle actif pour essayer d'éviter les épisodes et de les détecter très tôt. Parce que si on détecte un épisode au tout début, on va pouvoir le traiter et il n'y aura pas de conséquences terribles, en fait.
Alors, j'ai entendu ce que disait Cécile, elle parlait de grossesse. Donc, c'est une question qu'elle doit se poser pour sa fille. Est-ce que ça, c'est un sujet? C'est pas une contre-indication?
Non, ce n'est absolument pas une contre-indication, mais c'est une période à risque. Et donc, c'est... alors, en général, il vaut mieux programmer, en fait, cette grossesse, puisqu'il y a certains médicaments qui sont contre-indiqués, et notamment le Dépakote, dont parlait le premier patient, en fait, en disant qu'il avait mauvaise presse. En fait, il ne peut pas être prescrit chez la femme à âge de procréer. Et donc, l'idée, c'est de plutôt planifier une grossesse pour voir si on n'a pas des médicaments contre-indiqués. Et ensuite, c'est une période à risque. Mais si c'est accompagné bien pris en charge, en fait, il y a peu de décompensation dans ce cadre-là, si c'est bien pris en charge.
Alors, on vous souhaite que votre fille soit bien prise en charge, Cécile. J'espère qu'on vous a en partie rassurée. On va prendre un tout dernier appel, celui de Tiffaine, qui est à Paris. Bonsoir, Tiffaine.
Bonsoir.
Merci de nous avoir appelés.
Merci de prendre mon appel. Moi, je voulais parler de la stigmatisation, mais une un peu spécifique, c'est-à-dire qu'on parle souvent du poids de l'entourage, en fait, autour des bipolaires, qui c'est difficile pour eux, et parce que en général, dans toutes les œuvres, cinéma, livres, le patient ne veut pas se soigner, ne veut pas regarder les choses, enfin, c'est toute une histoire. Et moi, je suis détectée, depuis 15 ans, et je fais tout ce qu'il faut, et je vois, j'ai cette charge mentale tout le temps de savoir dans quel état je suis, est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche plus, etc. Et de cacher à mon entourage quand je vais pas bien pour justement les préserver. Et c'est vrai que j'ai peur tout le temps, quoi. Donc c'est vrai que c'est difficile de voir toujours l'image de la personne exaltée qui est légère, inconséquente, et qui doit remercier son entourage tout le temps parce que
changer un peu l'image, hein. Merci, quoi. Merci beaucoup, Tiffaine. Ouais. Je vais vous couper parce que l'heure tourne sur effectivement la stigmatisation, sur l'image de ces troubles, de cette maladie. Il y aurait beaucoup de choses à dire. C'est là-dessus qu'il faut travailler, Maxime Perazil-Duvagel.
Oui, pour moi, c'est la priorité numéro un, dans le sens où, en fait, plus on sera nombreux à se renseigner sur ces pathologies, plus en fait tout le système avancera in fine, parce que malheureusement, encore maintenant, je me rends compte que je pense que si vous demandez à 80% des gens, enfin 80% des gens ne savent pas définir ni la bipolarité ni la schizophrénie, et in fine, on devrait l'apprendre à l'école, en fait.
Voilà, parler et témoigner, ouais. ne pas se cacher.
Vivre, vivre en fait aussi.
Et puis surtout, peut-être professeur Chantal Henry, des moyens pour la psychiatrie, j'imagine, parce que on l'a pas dit, mais ça tombe sous le sens, c'est quand même le plus important.
C'est bien de pouvoir avoir accès à un psychiatre, et à l'heure actuelle, ça peut être difficile dans certaines régions de France, effectivement.
Effectivement, et c'est pourtant très important pour les traitements et la prise en charge. Un grand merci à tous les deux et à tous ceux qui nous ont appelés, très nombreux ce soir à témoigner. Merci mille fois.